Beadichatz entrenada ou lo cap dan a quelle emission tombo plat per vous trouba al cantu de la Camineille et en embouffa nous présent des belles contes écrites et dites par Thierry Parsa de l'association Canta Aurelio, car quel homme est un contaire, un cantaire, est un musicaire dans le groupe Igor. Et puis, al téléphone, c'est Rem avec le seigneur Eric Astier, qui vit en Guadeloupe et qui va nous parler un peu de la situation d'aquel darim meses que ces débanades en Guadeloupe, force complication. Aurent abé al téléphone Mario Joano Verni, qui nous parlera de la derrière directive del ministère de l'éducation pour l'enseignement de la langue de France. Donc, comme disais, Nadal est passé, mais la neige de Mouron Lungos et le moment de la Belliade en Périgord est arrivé. Et nous autres, Thierry, eh bien, on t'écoute. On est à côté de toi, on imagine qu'on est à côté de la Camineille. Et que vas-tu nous dire?
Bah, je vais vous parler d'un conte, mais fin, quand il a la vérité, quand il a été dit tout à coup. Quand je vous parle du Breton Ligor, c'est quand l'outin ou la Bretagne est raculade au Périgord. Et chez nous autres, il y a des similitudes entre les deux départements. Il y a le fraise de verre, hein, le fraise de poule de sel, il y a le boutarin chez nous autres, puis le boutarin là-bas, enfin, il y a plein de causes. Et avec qui, comment ça se passe tout à coup? Une touriste arpente la forêt des Huelgat, camine le long de la rivière. Et au milieu des amoncellements de pierres énormes et moussues, finit toujours par arriver au pied d'une roche à la forme étonnante. Il se fera photographier au pied de ce qui ressemble à un boulet parfait, haute comme deux hommes de haute taille et large de deux toises environ. Il se laissera convaincre par des explications du guide et repartira enrichi de sciences géologiques. Mais il n'aura pas remarqué le sourire en coin du vieux barde. Et non, il sera exempt de la révélation d'un mystère qu'il n'a pas été autorisé à connaître. Et ce, qui se transmet depuis des siècles, entre héritiers et amis des fées. La fabuleuse histoire du Breton Igor, non, ce n'est pas une bestiole, non, non, c'est ni un Corrigan, ni un Quinoman, non, non, c'est... C'était plutôt une province aujourd'hui écartelée entre le nord et le sud-ouest. Il y a cela une brouette de siècles, du temps des druides, des fées, des corrigans, des animaux fantastiques. La Bretagne et le Périgord étaient unis, eh oui, deux pays voisins. Et bien que leur peuple fût différent, ils vivaient dans une entente exemplaire. Les deux nations commerçaient, leurs habitants se rendaient visite et ne s'affrontaient que dans des compétitions bon enfant, prétexte à des ripailles, des explosions de bonne humeur. Ainsi, les Périgourdins ont remporté à chaque année le concours du meilleur foie gras ou de la meilleure omelette aux truffes. Les Bretons, eux, ils gardaient le trophée du meilleur hydromel, de la meilleure galette, de la bonne pêche. Enfin, c'était ainsi depuis des temps et tout se passait bien. Mais un jour, certains Bretons décidèrent de rompre ce bel équilibre. À la date du concours, le plus gros cep s'approchait. Les druides acceptèrent peut-être, là, ils voyaient-ils, comme une plaisanterie, d'aider à la victoire de leur camp. Oui. Dans l'endroit le plus secret de la forêt, ils ont préparé sur le sol, dans de grosses marmites, des potions, et à l'aide de corrigans, le contenu de plusieurs de ces marmites dans lesquelles avaient mijoté pendant des mois, des ingrédients secrets. Le résultat fut à la hauteur des espérances, et une nuit poussa un énorme champignon qui n'avait jamais été vu de mémoire d'homme, même de druide d'ailleurs. Ils en étaient fiers. Et les Bretons se frottaient les mains, heureux de pouvoir emporter cette année-là le concours. Les Périgourdins, au départ, ne se doutèrent de rien, mais ils remarquèrent quand même un petit changement dans le comportement de leur ami breton. Ils paraissaient sur deux, ils osaient presque faire des paris sur le résultat, chose qu'ils ne faisaient jamais. Un corrigan, un peu niais, et aussi un peu éméché, passant devant une taverne de Périgourdins, et ne refusa pas les pintes de bon vin qu'on lui proposait. Alors, au bout d'un moment, ivre, il révéla tout. Alors, on l'enferma dans la cave aussitôt et on convoqua d'urgence les sorciers et les sorcières. Ceux-ci formèrent une unité volante et se posèrent à la nuit profonde dans la forêt de Wolgoth. Le cep n'était pas gardé. Les korrigans ronflaient, les fées étaient parties danser. Et après avoir admiré ce cep géant, ils prononcèrent des incantations. Ils récitèrent des formules magiques. Et aussitôt, une pluie pétrifiante tomba sur la forêt, surtout sur le champignon magique. Et le lendemain matin, celui-ci n'était plus qu'une énorme pierre. L'affaire aurait pu en rester là. Les protagonistes auraient pu s'expliquer, rire de tout cela, enfin, devant une bonne cuvée de cervoise ou d'hydromel. Mais le destin fut différent. Les Périgourdins et les Bretons s'accusèrent mutuellement d'avoir triché, d'avoir trahi leur amitié séculaire. Les compétitions furent annulées. On s'interdit même de visite et de commerce. La guerre menaçait. On forgeait des épées, des lances. Quand soudain, le vieux chef des druides sortit de la forêt des Canurles et dit « Non, non, allez, arrêtez tout ça. C'est pas bon, tout ça. La guerre, ça pourrait durer des générations, épuiser les deux peuples et personne n'en sortirait vainqueur. » La solution était de partir, de séparer la Bretagne du Périgord et de s'éloigner suffisamment quand même pour que les deux nations ne puissent pas arriver au conflit ni à l'invasion. On se rallia tous, enfin les Bretons je veux dire, à la proposition du druide et des fées. Sur la terre des enchantements, tout était possible, on le démontra. Les Bretons coupèrent les forêts qui couvraient les monts d'Arrée pour fabriquer des mâts, des gaffes, des avirons. La Bretagne se couvrit de voiles. Toute la population se porta sur les bords du pays et chacun se mit à l'ouvrage. Les Périgourdins virent leurs anciens amis s'éloigner peu à peu de la Bretagne et la Bretagne se décrochait lentement du Périgord, mais s'éloignait sûrement. Le voyage fut long et épuisant. Les vents n'étaient pas toujours favorables, mais la Bretagne finit par dériver jusqu'à son emplacement actuel. On ne décrit pas l'étonnement des habitants de ce qui est la Normandie actuelle quand ils virent s'approcher de ce vaisseau bizarre. Les Bretons s'ancrèrent solidement, se présentèrent à leurs nouveaux voisins et une nouvelle vie reprit. Au cours du voyage et des manœuvres, des petits morceaux de Bretagne s'étaient séparés. Voilà, c'est pour ça qu'on retrouve l'île d'Aix, l'île de Ré, l'île de Bas, l'île de Saint, l'île d'Ouessant. Voilà, tout ça, ce sont des morceaux de la Bretagne. Et par un mouvement géologique, l'ouverture faite par le départ des Bretons se combla de nouveaux voisins. Les Périgourdins eurent à nouveau à côté d'eux les Poitevins et les Saintongeais. Voilà la véritable et magnifique histoire du Bretonnigord. Depuis, les Bretons et les Périgourdins ont commencé à se fréquenter. Un sorcier périgourdin connaît le secret, bien sûr, la formule magique qui pourrait rendre au cep sa nature originelle. Mais bon, à quoi ça servirait maintenant? Quant au korrigan enfermé dans la cave, on l'oublia. Oh, il a survécu, oui, c'était un korrigan. Mais voilà, il était couvert de honte quand même. Alors des fois, si vous arrivez de le croiser en Périgord, du côté de Bergerac, voilà, saluez-le. Mais vous pouvez même l'inviter à votre table si vous voulez. Mais surtout, surtout, ne lui proposez pas une omelette au cep. Assurément, là, il le prendrait mal.
Disparier. ci va la nostra differenza. Almeno a mi Europeng e a chi entero de France tornaremo a mezclar la nostra influenza.
Donc nous autres on est ici, on est toujours dans la caminaille virtuelle dans le studio, mais vous autres c'est dans votre état et j'espère que fa le temps n'est pas méchant et que avez le plaisir de l'année des ici, donc on est quand même dans la Belliado et donc on continue avec Cantaurelio et le Thierry Parsa qui après le Bretou Igor nous demande dans le pays de la Spius, est-ce que Thierry?
Oui. La transhumance d'Aupib, la transhumance des puces. Ce soir-là, le petit Yann, dans sa chambre, au beau milieu de son lit, là, bien au chaud, il avait, comme à son habitude, lu quelques pages d'un livre. Plus précisément, le livre préféré du moment, car Yann lisait beaucoup, et tous les soirs. Une façon pour lui de trouver le sommeil, mais ce soir-là, justement, le soleil n'était pas au rendez-vous. Il se faisait attendre. Le petit Yann, ne pouvant trouver donc ce dit sommeil, appela sa maman. « Maman, maman, je ne peux pas dormir !» La maman de Yann fit tourner la poignée en bois ronde de la porte de la chambre et rentra sur la pointe des pieds, de ses pieds nus comme d'habitude. La pièce était juste éclairée par une petite veilleuse en forme d'étoile. « Eh bien, mon grand, veux-tu que je te lise une histoire ?» lui dit sa maman. « Oh, quelle question! Mais bien sûr qu'il voulait. Sa maman les racontait si bien, ces histoires, dans ce grand livre qu'elle avait sous le bras. » Au bout d'un moment, la voix douce de la mère avait eu raison des peurs du petit Yann. Et il s'était enfin endormi sur une histoire de merger montant son troupeau immense de moutons, Gamadan, très heureux de se retrouver là-haut, dans les alpages verdoyants et odorants de la haute montagne. Cette nuit-là, Yann avait rêvé aussi, oui. Ouais. Il avait rêvé qu'il était berger, lui, et qu'il faisait la transhumance avec son troupeau et son chien. Mais ce petit berger-là avait un tout autre troupeau. Ce n'étaient pas des moutons, mais des puces. Ah oui, des puces, oui. Yann, dans son rêve, était un berger de puces, et il les menait lui aussi dans les alpages, là-haut, dans la montagne. Les puces étaient si heureuses, aussi heureuses que des moutons, que des chèvres, elles sautaient partout. À qui mieux une. Une fois arrivé là-haut, Yann, le petit berger des puces, installa son campement. À la tombée de la nuit, le ciel était sombre. Et les puces continuaient à sauter, de sauter de plus en plus haut. Et toute la nuit, il en fut ainsi. Et Yann, le petit berger des puces, finit par s'endormir avec son chien, enroulé à côté de lui. Et au petit matin, c'est le ciel qui réveilla Yann, le berger des puces. Mais plus aucune puce. Le troupeau avait disparu. Elles étaient si heureuses, ces puces, qu'elles avaient sauté toute la nuit et de plus en plus haut, toujours de plus en plus haut, qu'elles avaient fini par passer de l'autre côté du ciel. Le petit berger des puces était un peu triste, bien sûr. Il n'avait plus de troupeau. Elles reviendront, bien sûr, toutes seules, pensait-il. La nuit suivante, il s'assit en tailleur avec son chien et regarda le ciel sombre toute la nuit. Il ne dormit pas. Et soudain, au milieu de la nuit, le troupeau des puces revint tout seul, en perçant de mille et mille trous le ciel nocturne. Et c'est depuis ce jour-là que l'on peut voir la lumière qui se trouve derrière le ciel, et que les hommes, croyant tout savoir, appellent ça des étoiles. Mais non, non. Yann, il sait bien que ce sont les trous faits dans le ciel sombre par ces puces de son troupeau. Et il faut le croire, parce que c'est là la fin de mon histoire. Et comme on dit en Périgord, et clic et clac, mon conte est acabat.
Il faut que l'on s'enlace avant que nos corps se lassent. Se sourire aussi, ne pas oublier ce qui nous lie. Laisser le temps laminer nos sentiments, des chapins loutins, esclavage des sentiments. Comme des enfants chipés du sucre glace sur le gâteau, là sur la table basse, ne pas laisser le temps apaiser nos cœurs d'enfants, de chapaloutin empêchera nos cœurs d'ébranler. Savoir essuyer la larme qui passe, ce sourire aussi, balayer les soucis, ne pas laisser le temps nous rendre indifférents, échappe à l'hôtel,
bénis-nous pur aller.
Avant que nos corps se lassent, se sourire aussi, ne pas oublier ce qui nous lie, ne pas laisser le temps laminer nos sentiments, échappe à l'outil, esclaffe à nos pressentiments. chaque fois notre sentiment échappe à l'outin. Et chaque fois notre sentiment échappe à l'outin. Et chaque fois notre sentiment échappe à l'outin. Et chaque fois notre sentiment.
Adichat, c'est qu'est-ce que Adichat vous démène d'in la Guadeloupe, un tenant l'ami Eric Astier. Nous avons Eric?
Bien bonjour tout le monde.
Ah, le pays del créole, comme fa, à quelle langue, ce qui fait la richesse de la francophonie. Dis-nous, mais al pays del créole, que boulego, d'un pays caoquetain, on a noté qu'il y avait des problèmes. Comment a discuté côté d'un pays la situation?
Au confirme, il y a eu, parce que tournera de tout le gars. C'est 3 semaines, 4 semaines d'agitation, hein, fait, qui commencèrent le 15 de novembre fins à le 5 de décembre, pratiquement. Hein. Donc, 3 bonnes semaines. Et bien, qui partiront du refus de l'obligation vaccinale et ce qui s'est dit en français, le pass sanitaire, donc le sal sanitaire en occitan, digamos, un néologisme, et une refuse forte et marquée par une population antillaise, mais qu'en Guadeloupe, qui vit mal le fait d'être constraint, obligé, des fois qui compte, qui est contre nature, pratiquement. C'est-à-dire qu'il y a une histoire qui n'est pas récente, hein, d'obligation qui vient de Paris, hein, de l'ex métropole coloniale, et alors de l'État, qui est mal considérée. Le passé en Guadeloupe est une marque prégonde et forte. Et le monde sont encore vivent entre présent et passé. Ils disent fougère forcée d'accepter le chlordécone, qui a encore quel pesticide toxique, force toxique, qui protégeait la plantation des bananes et qui empoisonnait une bonne partie de la population. Et des passes droites interdites aux États-Unis, mais autorisées en France, enfin bon, un peu comme le scorticoïde à Rome. Et donc, il y a des manifestations en 1607, t'avais pratiquement une centaine de morts, qui compte qu'est mal connues en France, et des cas en 1985, en 2009 encore, le LKP, l'INH contre profitation, 44 jours de grève dures, et alors tourne, je dis, il y a une main de revendications, parce que les Guadeloupéens, et les Antillais en général, ont l'impression d'être mal comprises, mal pas écoutées, et qu'on leur impose des causes qui ne veulent pas, ou qui sont pas, disons, il n'y a pas de pédagogie de part de l'État. Il y a une fin, ce qui compte des complexes qui ne se peuvent pas régler en 2 heures de réunion avec les autorités. Et donc, en réponse, la seule cause qu'on trouve qui est efficace, c'est de bloquer la vie sociale et économique en Guadeloupe, en organisant des barrages de partout, et qui est efficace, hein, sur 200 mètres, par exemple, sur une route, on peut avoir 5 barrages successifs, de pneumatiques, des carcasses de bâtures, des arbres trincats, des palettes, des causes diverses, et le fioc. Goûter le fioc et espérer et empêcher le passage.
Et comment la situation, c'est à l'Urodar, à quelle émission, à qui on est le 20 de décembre, comment c'est après Nadao ne représente pas grand cause en Guadeloupe.
Nadao, si, c'est une fête familiale importante, mais disons que il y a guette une réponse de l'État, de policière forte. Cal dire qu'en Guadeloupe, il y a 12 000 policiers et gendarmes, ce qui fait une per 194 per stagiaire, le double per rapport à l'Hexagone. Et donc les autorités m'ont demandé les policiers et gendarmes pour faire sauter leurs barrages. Et nous, il y a des affrontements, parce qu'il y a eu des commandes qui étaient acquis des gangsters, qui infiltrèrent le mouvement. Heureusement, il n'y a pas de victimes, des morts, il y a quelques naufrages. On sait tous que le GIGN et le RED ont une centaine d'hommes supplémentaires, donc un dispositif fort, qui fait plégat d'un biais momentané les manifestations. Et une main de délai de grâce fin au 31 décembre. C'est-à-dire que l'obligation est reportée au 31 décembre. Bon, après Nadal, mais le 1er de janvier, dès que ça passera, tout le monde pense qu'il tournera au mois de janvier. Mais là, on passe du méthode bias, mais la question n'est pas réglée. Le département Guadeloupe, Martinique, Tabé sont soumettus à la loi française, comme sous le département. La loi Bouta de le 5 d'août, ça s'applique partout sur le territoire français. Donc, logiquement, ça s'applique avec en Guadeloupe. Et il n'y a qui pensent qu'il y aura d'adoubements par rapport à cette loi d'obligation vaccinale pour le personnel médical et les pompiers. Et espace petit pas qui soit possible. Après, il faut prendre conscience que il n'y a pas une France unique et unificade qui fonctionne partout dans le métier, bon, en Occitanie ou ça vient plat, et il faut prendre en compte la réalité régionale, si je ne dis pas locale, c'est parce que c'est mai capo. Mais l'esprit français du gouvernement, ce n'est pas gagné. Mais ici, il y a une résistance forte et il y a une rejette des causes qui sont impausables et pas conscientes. Ce qui est important, c'est que le monde a un métier d'être écouté. Et on a l'impression qu'ils ne sont pas écoutés, que les autorités ne nous écoutent pas. Vous autres, si vous ne écoutez pas, et bien, vous avez forcé à d'accord.
La force. Eh bien, écoutez, Ricastiamo, merci, je dois quel point de vue plein intéressant sur ce qui s'est passé. Oui, synthétique, mais nous tournons au contact à le mèche de génie en fonction de l'évolution possible d'aquelle situation, parce que si le rapport de force continue, on sait qu'on n'a pas la solution. Digum, la solution, qu'elle renégocie, mais que mai, ce n'est pas possible autrement, d'après ce qu'il disait.
Mais va falloir négocier. Et va falloir prendre en compte ce qui se passe véritablement sur le terrain et pas imposer de l'extérieur des solutions qui fonctionnent mal ici.
Eh bien, merci. À quel point de vue tu payes bon Nadal. La reste passée. J'espère que c'est plein de banates, que le pays Nadal ne vous a pas désbrimba, même s'il ne reste pas sur le territoire métropolitain. Et paye à l'eau au téléphone et paye Beléo à l'Anquebène en Occitanie. À Dichat, c'est Ricasti. Merci. Et bonne année. Adieu. Merci.
La brume l'aile, les rions espesso, le moulinier s'escarté, le moulinier s'escarté. Monte dans l'eau, en la cime nous casse, per y veille son camis. Veille son camin. La primero branco de los secos. El un mulineto me. El un mulineto me. grido cuixeto Maita beru pitiri Maita beru pitiri Io da un villaggio vengo non sei curi vengo non sei curi e non vi fuori torno ben sulla gioia e vi fossi lui Une biffo sur l'outil Il a entre coup Una grande gourmando L'immanière l'oupitini L'immanière l'oupitini Sous que falla La tresena figlio Ne spariti la canzù
Ne spariti la canzù
Ne spariti la canzù Ma ero mu tanti tambù Che la sparita la stress Las marinas las tres
Dans un pays vivait un homme qui avait construit sa maison en terre, couleur de la terre, et il avait peint sur la façade un cadran solaire. Oui, mais ça, il y a fort longtemps. La maison était toujours là, le cadran solaire aussi, mais un peu effacé quand même maintenant. Et cet homme-là avait pour vivre un lopin de terre, assez grand, mais où il ne poussait guère que des cailloux. Et au bout de ce lopin de terre, il avait un figuier, un vieux figuier, tout noueux, énorme. Voilà, c'était tout son bien, ben il s'en contentait. Même l'été, parfois, il allait faire une sieste sous ce figuier. Oui. Et au cours d'une de ses siestes, il a fait un rêve étrange. Un rêve qui lui disait de quitter sa terre, sa maison, de marcher des jours, des semaines, et d'arriver à une ville. Une ville qu'il ne connaissait pas, qu'il n'avait jamais vue. Une ville assez grande, et le rêve lui disait de rentrer dans la ville par la grande porte, de cheminer dans les rues, de parler avec les gens, d'aller vers le marché, de faire toute la rue du marché aussi, et puis là, de viser. Et puis, quand il arriverait au bout de la rue, il faudra qu'il prenne à gauche, vers un pont. Un pont, parce que la ville était coupée en deux parties. Il fallait que il aille à ce pont, qu'il descende au pied du pont, et que là, il y avait un coffre, un trésor, qui était pour lui, il n'avait qu'à le prendre, personne ne lui dirait rien, c'était à lui. Quand il s'est réveillé de sa sieste, il s'est dit, bon sang, quel rêve bizarre quand même. Et quelques jours après, il a refait le même rêve, une fois de plus. Et puis un autre jour, encore le même. Tant et si bien que, à la fin de la semaine, il s'est dit, mais quand même, ce rêve, s'il était prémonitoire, si vraiment ce trésor était pour moi, là, il faudrait que j'y aille quand même, ça serait sot de ne pas le faire. Alors un matin, il a fermé sa porte de cabane et il est parti. Il a mis sous ses pieds le chemin et il a marché. Il a marché des jours, des semaines. Et puis il est arrivé à cette ville qu'il ne connaissait pas. Il a vu la grande porte, il est rentré, il a déambulé dans les rues, il a fait le marché. Il a discuté aussi avec les marchands, il a devisé, il était heureux. Et puis au bout, il a vu la rue à gauche, celle qui menait au pont. Alors il a pris, et arrivé au bout du pont, il a été tenté de passer de l'autre côté de la ville. Mais il ne l'a pas fait, il s'est dit, bon, non, non, je suis venu pour quelque chose de précis, je vais descendre à la première pile. C'est ce qu'il a fait, il est descendu. Et là, au pied de la pile du pont, normalement, où devait y avoir son trésor, là. Et bien là, il y avait un mendiant. Alors l'homme a été déçu, mais tellement déçu que... Ah, il était à deux doigts de se jeter dans la rivière. Il est monté sur le parapet du pont et puis il allait se jeter. Et là, le mendiant l'a rattrapé par la cheville, le talon. Il lui a dit, mais enfin, mon ami, pourquoi tu veux te tuer aujourd'hui alors qu'il fait si beau, la vie est belle quand même. Et là, l'homme a fondu en larmes, il a expliqué tout ça au mendiant. Il lui dit, voilà ce que me dit le rêve, et voilà, je viens jusque-là, j'ai marché, et je te trouve à toi, le mendiant. Alors le mendiant lui dit, ben, écoute, les gens d'ici disent de moi que je suis fou, mais toi par contre, toi, tu l'es bien plus que moi. T'es mille fois plus fou que moi. Quand même, partir comme ça sur un rêve, faut être fou. Écoute, je vais te dire quelque chose. Moi, tu vois, je vis ici, là. Et ça fait des années et des années que je fais le même rêve. Un rêve qui me dit de partir dans le pays, d'aller vers une cabane couleur de terre sur lequel il y a un cadran solaire de dessiné, à moitié effacé. Devant, il y a un lopin de terre où ne poussent guère que des cailloux, et puis au fond, il y a un figuier, un vieux figuier. Et que là, si je creuse un trou profond, eh bien, il y a un trésor pour moi. Je n'ai qu'à le prendre, il est à moi. Personne ne me dira rien. L'homme, bien sûr, a reconnu sa maison, sa terre, son chemin. Alors il a enlacé le mendiant. Il a enlacé, il a même embrassé, mais enfin bon, ça ne se fait pas d'embrasser un mendiant. Non, ça ne se fait pas. Mais lui, il l'a fait quand même, et puis il est reparti, il a marché les semaines, les jours, et puis il est arrivé chez lui. Il a vu sa maison en terre avec le cadran solaire, son lopin de terre et le vieux figuier. Il n'est pas rentré dans sa maison, non, il est allé directement à la remise, chercher une pioche et une pelle, et il a creusé, il a fait un trou énorme. Et savez-vous ce qu'il y avait au fond de ce trou ? Énorme. Eh bien, il y a tous les rêves et tous les trésors que vous souhaitez.
Bravo, merci plein Thierry Parsa. Et Kres Kadar, on est avec Marie-Joanne Verny, Adichat, Marie-Joanne.
Et bonjour.
Et merci d'être ici et que pas une somme qui va nous parler d'art, j'espère, comme le conte que vient de nous faire Thierry Parsa. Son das d'arrière directive qui vient d'être publica. Per l'éducation nationale, au niveau de l'enseignement des langues de France, alors tu es comme représentante de la FELCO, quel est ton budget par rapport à Dacom?
Alors, premier romain qu'a quel circulario en dire et un français vulgaire, il casse pas trois pattes à un canard. Bon, d'abord, est-ce pas ce qu'une circulaire? Donc, caldra que Yadjo nous arresta la
Ah, pardon, Maria-Jeanne. Est-ce que peut le faire en français? Nous...
Ah, pardon, oui. Mais m'a pas posé la question.
Non, mais évidemment, mais il n'a pas pensé que pour la clarté par rapport à nous.
Oui, mais t'en fais pas, basta de me dire. Ah. Bon, donc, en français dans le texte. Cette circulaire qui a été publiée le 16 décembre, je dirais en étant un peu vulgaire qu'elle ne casse pas trois pattes à un canard, d'abord parce que ce n'est qu'une circulaire, ce n'est pas un texte qui vaut force de loi, donc elle est extrêmement fragile et on ne sait pas encore s'il y aura des recours ou pas. En tout cas, elle marque un recul. Hein, c'est évident que par rapport à la censure d'une partie de la loi Molac, notamment celle qui prévoyait l'extension de l'immersion dans l'enseignement public, bon, cette circulaire, elle marque un recul du gouvernement. Ça, on ne peut que s'en réjouir. Et ce recul, il n'est pas tombé de la lune. Hein. Il est tombé du fait qu'on s'est mobilisé, après la censure, on s'est mobilisé quand il y a eu le rapport des députés Euzé et Kerlogotte. Et pour ce qui est de la FELCO, on est intervenu plusieurs fois auprès du ministère de l'Éducation nationale, parfois avec l'office public, parfois seul. On a lu les premiers jets de la circulaire, on a proposé des améliorations, donc elle n'est pas tombée de la lune, hein. Rien ne tombe de la lune. Cela étant, alors qu'est-ce qu'il y a de nouveau et de positif? Ce qu'il y a de positif, c'est que l'immersion est reconnue comme un système pédagogique valable, et pas seulement dans le privé associatif, mais aussi dans le public, ce qui fait qu'on pourra avoir des systèmes, on en a déjà, hein. Oui. On en a beaucoup en Corse, on en a au Pays Basque, on en a en Catalogne, des écoles immersives publiques, d'accord? Donc ça pourra être fait maintenant de façon légale et étendue. Ça c'est positif.
Une bonne nouvelle.
Positif aussi, des nouvelles langues reconnues, flamand occidental, franco-provençal et picard, qui demandaient depuis longtemps d'être reconnues par le ministère. Ça c'est bien. Le rôle des conseillers académiques est reconnu, ça c'est bien. Cela étant, et là je suis un petit peu notre communiqué, cela étant, dans la loi Molac, ce qu'il y a de nouveau, on parle essentiellement de l'immersion, mais pas beaucoup de gens parlent de l'article 7 de la loi Molac. L'article 7, il prévoit qu'on aille peu à peu vers une généralisation de l'offre d'enseignement des langues régionales. Généralisation, ça veut dire qu'on ne le réserve pas à quelques écoles où on fera de l'immersion ou du bilinguisme, ce qui ne peut être qu'une minorité dans l'immédiat pour l'occitan, hein. Je ne parle pas des autres langues, hein. Mais qu'on offre sous des formes variées à tous les mômes qui vivent ici une possibilité de suivre un enseignement d'occitan. Ça, c'est inscrit dans la loi Molac, d'accord? Et ça, la circulaire, elle se garde bien de le dire parce que généraliser, ça embête plus que de distribuer quelques subsides à quelques écoles dispersées sur le territoire. Donc ça, bon...
Point négatif.
C'est pas réglé. C'est pas réglé. L'autre problème qui n'est pas réglé, c'est que, bien évidemment, la circulaire occulte la question des moyens. Et pour cause, si on veut généraliser l'enseignement, il faudra se poser la question des maîtres, de leur formation, et donc des INSPE, des instituts de préparation au professorat des écoles, où il n'y a que 4 ou 5, sur tout l'espace occitan, hein, oui. Pour 32 départements, d'accord, alors qu'il devrait y en avoir un par département. Des facs. Il n'y a que 2 facs qui proposent une licence d'occitan complète, Toulouse et Montpellier. Des lycées où tout a été flingué, d'accord. Donc si on veut arriver à une généralisation, il faudra mettre les moyens pour avoir les maîtres formés pour s'adresser à tous ces gamins. Et puis, autre problème qui n'est pas réglé par la circulaire, donc la question des moyens, je l'ai dit, mais la circulaire des lycées, la réforme des lycées, pardon, qui est une réforme, on l'appelait mortifère en son temps. Elle est mortifère dans le sens où elle massacre les options, littéralement. Pas seulement les langues régionales, hein. Nous en particulier, mais elle massacre tout ce qui dépasse en termes de langue qui n'est pas grosso modo anglais 1, espagnol 2. Elle crée une concurrence terrible dans les bahuts, avec une ambiance pourrie. Les collègues en témoignent. Les emplois du temps sont compliqués parce qu'il n'y a plus de classe, il y a des élèves dispersés sur leurs enseignements de spécialité. Allez, trouver un moment de l'emploi du temps où beaucoup d'élèves pourront faire occitan quand ils ne sont pas dans la même classe. C'est devenu mission impossible et on place les heures le mercredi après-midi ou le samedi matin. Bref, la question n'est pas réglée. Nous, on prend cette circulaire comme, un tremplin pour continuer à se bagarrer. Voilà. Ce qui est sûr, c'est qu'elle fait parler d'une de nous, hein, comme la loi Molac, qui a ouvert dans les médias, y compris les médias nationaux, un débat comme jamais il n'y en avait eu depuis la loi d'Aixonne. Hein. Jamais on avait autant parlé de l'engrais régional. Et ça, c'est important. Parce que je prétends qu'on souffre moins, on souffre plus, pardon, de la non-connaissance que de la l'hostilité. Moi, le côté, ils sont jacobins, ils sont anti. Non, les gens ne sont pas. Qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs, jacobins? Les gens, ils ne savent pas ce que c'est que le langage régional. Ils ne savent pas que ça existe. Ils ne savent pas ce que ça peut apporter. Et je prétends que si on porte à la connaissance des gens, et votre radio y contribue, et merci, si on porte à la connaissance de gens plus nombreux ce que les langues régionales peuvent leur apporter, on va gagner des sympathies. Il ne faut pas se placer dans une optique obsidionale où on serait assiégé de partout par des méchants qui ne nous aimeraient pas. Non. Nous, on se place en conquérant, en porteur de culture, en porteur d'ouverture culturelle, de dynamisme, pas dans l'enfermement. Voilà. Donc tout ce qui est bon pour faire parler de ces langues, ben, tant mieux. Hein.
Eh bien, écoutez, Maria Joanne, merci plein d'aquello credo, qui a bien nous expliqué, nous a donné ce qu'il y a bien de votre pensée, et aussi ce qu'il n'y a pas dans la circulaire et ce qu'il y a. Et on espère que l'an qui vient, on vous souhaite tout le meilleur à vous, personnellement, et effectivement, une belle la langue de France.
Je précise pour nos auditeurs que ce que je viens de vous résumer là, a été mis en ligne sur le site de la FELCO, donc felco-creo.org, vous trouverez. Hein. Notre communiqué d'analyse est en ligne sur le site. Donc si vous voulez y revenir, et également j'ai mis en ligne bien sûr le texte de la circulaire. Donc ça permet aux gens de savoir vraiment de quoi ils retournent.
Merci Maria Joanne et félicitations
pour
toute quelle réflexion, quel souscadis et quelle action pour faire que quelle langue un jour trouve une dignité vertadière. Bon annado et allez au Léo, à Dichat.
Et à vous savez, et merci perso qui faisait ce savez.
Allez bien, merci.
Pas pitchouno,
puis la berceuse oubliée, puis le pan picciuno, l'ugal n'est pas tempolié. Il y a dans l'histoire plus à manger qu'à boire, souvent. Y'avait dans ta mémoire 13 lunes de gloire, mais ça fait fuir les amants.
Une pensée divergente poussait à mes pieds. Au bout de 3 minutes, elle avait envahi près de 20 mètres carrés, générant elle-même d'autres jeunes pensées quelquefois convergentes. Elles se combinaient, se mêlaient, s'en mêlaient. J'étais au centre de l'épanouissement, de la profusion de pensées bigarrées, témoin d'une nature humaine si belle et si rebelle.
Au loin, j'observais le mois de mai, allongé, la tête posée sur les jambes du mois d'août. Quel jour on est ?
De l'autre côté, un troupeau d'éléphants marchait sur une glace sans tain. À chaque pas, une craquelure, provoquant, divisant leurs reflets. Nonchalamment, ils marchaient, la trompe en avant, bien décidés à poser leurs valises sur le quai de deux gares.
Des milliers de microbes crièrent à leurs oreilles que c'était impossible.
Les pachydermes restèrent sourds à leurs suppliques. Un train démarra, emportant avec lui toute la jungle équatoriale.
Un vieux crocodile pleurait à côté d'eux, à chaudes larmes de destruction massive.
À quelques mètres, une jeune femme prenait du recul pour sauter le pas. Elle voulait partir sans être blessée,
prendre l'avenir en main, être le prometteur en scène de sa vie, le promoteur à explosion d'un destin fragile. Tant pis si c'est bruyant. Elle voulait faire ses courses en grande surface, vitesse maximale, dérapage contrôlé, négociation de virage de vivre, rachat d'une conduite sans permis, sans permission, honorer la morsure et subite de ses pensées funestes, pensée pansement pour son moral changeant.
Elle se mit à genoux et pria pour qu'on lui donne une place au soleil. Suivre sa voie, suivre la voie du chemin de fer forgé qui lui criait d'en finir avec les murs, les groseilles de la lamentation.
Les pensées divergentes continuaient leur chemin, s'appuyant sur celles qui convergeaient. C'était clairement leur terreau. La beauté insolente de ces fleurs anarchiques m'émerveillait. Tel un lierre poussant à grande vitesse, toutes ces pensées envahirent le quai de deux gares. Elles empêchaient le bon ordre des choses. Le train s'immobilisa.
La jungle fit le silence.
La femme restait paralysée dans sa prière. Les pachydermes penchés regardaient leurs reflets dans la glace sans tain. Les larmes du crocodile, telle une pluie acide, creusaient des petits trous dans l'asphalte qui fumait. Je réalisais enfin que tout partait de moi. Mon corps produisait des milliers de pensées tentaculaires. Quelqu'un cria mon prénom.
Et tout disparut devant mes yeux. Il régna un grand silence. Et je vis en me penchant qu'une nouvelle pensée divergente poussait à mes pieds.
Arriba sus latero,
dins un moment injust desfigurat, manquant d'amor i plen d'encur. És sense com viure, és sense com viure. Si és a com de vol pas, si és a com de vol pas. Anar a l'escola, un ti parlo pas del nom de tu país, la llengua dels ancians, perquè t'en ne vergullo. És sense conviure, és sense conviure. Si és a com de vol pas, si és a com de vol pas. Ser mon francès, vencer la patria, ben votar, mal votar, tot el temps treballar, tot ho sabido. És sense conviure, és sense conviure. Si és a com de vol pas, si és a com de vol pas. Era pluguera, gaiara en besos ors, fa viure la família i s'ause dire com abia mal faig. És sense conviure, és sense conviure. Si és a com de vol pas, si és a com de vol pas. Tocar, tastar, poder tot far, sense que calgo passar les barreres d'aquell obvio. És belleu a conviure, és belleu a conviure. Vorrei tant sentir lo gust, vorrei tant sentir lo gust. És belleu a conviure, és belleu a conviure. Vorrei tant sentir lo gust, vorrei tant sentir lo gust.
E viu anche l'emissione s'acabo, ma l'annata è pas completamente acabata. E on va vous dire, Thierry Parsa vous le premier, Damien, qui fa la tecnica di quella emissione, tutta l'annata e l'umarseggiante, a tous les deux, buona annata e bien de bonheur.
Allez, buona annata a tutti e a Léo sur Radio Entre deux Mers, la radio qui déchire.
E poi dunque, come dire, la famiglia consacrata, buon annato sulle iuso, granado e accompagnato di forze aux autres. E se non è pas mai anche ben, che si schempa mens. Tenez-vous fier, portez-vous plat, e che la lingua nostra fugesse ausido per tutte en 2022. A dix chasse e al riveir, serene toujours aquí.